Quelque part au Moyen-Orient, perdu dans les entrailles des terres et des sables, oublié de la plupart des hommes, dorment 3000 ans d'histoire. Bienvenue aux Antiquités Orientales, l'émission qui vous emmène sur les traces des grandes civilisations du Moyen-Orient, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire. Notre voyage dans les Antiquités orientales fait aujourd'hui escale au bord du golfe Persique, tout au sud de l'Irak, dans une terre riche, fertile, encadrée par le Tigre et l'Euphrate, fière contrée où fleurissait il y a maintenant 5000 ans la civilisation des Sumériens. Dans cet épisode, nous irons explorer leur culture au travers de l'écriture et de tout ce qui peut lui être rattaché. Comment apprend-on à lire ou écrire? Pourquoi écrit-on? Qui en a l'opportunité et quel pouvoir cela implique-t-il sur les hommes et le monde? Ou plutôt, quelle symbolique l'écriture porte-t-elle chez les Sumériens? Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire. Petit disclaimer. Afin d'éviter de dire avant Jésus-Christ toutes les 5 minutes dans cet épisode, il faudra comprendre toutes les dates qui y figurent comme ayant eu lieu avant Jésus-Christ. Je vous remercie par avance de votre compréhension et vous souhaite une très bonne écoute. Avant toute chose, je me dois de vous donner un petit peu de contexte. Les Sumériens font partie de la civilisation dite mésopotamienne qui vécut pendant 3000 ans, depuis l'invention de l'écriture vers 3300 à la chute de Babylone vers 539. Ce sont les Sumériens qui ont posé les bases de cette civilisation. Leur origine reste encore inconnue, mais l'on sait qu'ils sont arrivés dans ce que l'on appelle le pays de Sumer, tout au sud de l'Irak actuel, au bord du golfe Persique, au cours du 4e millénaire. Les Sumériens se sont organisés en une myriade de cités-états indépendantes et furent rejoints par une autre culture, celle des Akkadiens. Les cultures sumériennes et akkadiennes, pourtant si différentes, fusionnèrent en une culture unique, celle de la civilisation mésopotamienne. Ainsi, même après la fin de l'indépendance des Sumériens vers 2000, leur langue, leurs mythes et leur écriture furent précieusement conservés par les habitants de leurs terres qui continuèrent cette transmission jusqu'à la fin de la civilisation mésopotamienne. Aussi, lorsque je parlerai des Sumériens, je parlerai bien des gens qui ont vécu dans le pays de Sumer jusqu'en 2000. En revanche, ce que j'appelle les Mésopotamiens, ce sont ceux qui ont vécu dans la région qui s'appelle la Mésopotamie, dont le pays de Sumer n'est qu'une partie, entre le 4e millénaire environ et 539. Cette petite introduction étant faite, remontons maintenant le temps, là où tout a commencé. Il était une fois des gens dans le désert. Ces gens vivaient comme des nomades, se déplaçant pour chercher nourriture et eau, parfois au prix de guerre avec leurs semblables. Un jour, ils se mirent à posséder des animaux, qu'ils faisaient se reproduire pour consommer leur viande ou les échanger contre d'autres ressources. Le commerce se faisait alors en créant une boule d'argile dans laquelle on insérait des jetons inscrits de divers symboles censés représenter les éléments de la transaction avant de la cuire. Si un doute survenait pendant ou après l'échange, on cassait la boule d'argile pour en vérifier le contenu. C'est ainsi que le premier contrat physique de l'humanité est né. Peu à peu, l'élevage de bétail devint de plus en plus difficile à concilier avec un mode de vie nomade. Alors, les gens du désert décidèrent d'arrêter d'aller vers la nourriture. Désormais, c'était la nourriture qui allait venir à eux. Il fallait donc trouver un endroit où le terrain était assez fertile pour cultiver la terre et où hommes, femmes et enfants pourraient accéder à l'eau facilement. La terre jouxtant les fleuves était parfaite pour cela, tellement parfaite que les gens du désert firent ce qu'aucun être humain n'avait fait avant eux, ils s'installèrent. Ils construisirent des maisons, cédant de leur bétail, ils cultivèrent des champs pour se nourrir et doucement, leur population grandit. Ce changement amena son lot de difficultés et d'adaptations. Il fallait désormais s'organiser, donner une tâche fixe à chaque individu, nommer des gens pour les coordonner et bientôt les villages devinrent des villes et les villes des états. Contrôlant maintenant un grand territoire, les cités ne pouvaient plus uniquement se reposer sur leurs propres ressources. S'ouvrir au monde devenait primordial. Les villes commercèrent entre elles, mais un nouveau problème s'annonça. Comment connaître l'évolution des stocks de denrées qui rentraient et sortaient des cités? Le système d'échange de boules d'argile ne suffisait plus, car les quantités avaient dépassé l'échelle de l'individu. On prit de l'argile, qu'on incisa à l'aide d'une pointe de roseau, pour représenter le monde. des poissons, des moutons, des bovins, de l'orge, et l'on ajoutait à toutes ces représentations linéaires des quantités. Sans le savoir, ceux qui inventèrent ce système qui les marquera à jamais firent entrer l'humanité dans une nouvelle ère, celle de l'histoire. Cette écriture est dite pictographique parce que les signes qui la composent désignent uniquement quelque chose de concret, ne laissant alors aucune place pour exprimer des idées plus complexes ou abstraites, comme des récits narratifs par exemple. Les siècles passant, cette écriture pictographique évolue pour devenir une écriture logosyllabique, soit une écriture où un signe peut autant exprimer un mot tout entier qu'une simple syllabe. Ainsi, le signe qui à l'origine ne représentait et ne désignait que l'étoile pouvait maintenant signifier âne, le sumérien de ciel et par extension celui qui l'habite, c'est-à-dire Dingir, le dieu, au même titre qu'il peut tout simplement noter la syllabe âne. Grâce à cette innovation capitale, l'écriture n'était plus seulement qu'un aide-mémoire de transactions économiques. Elle pouvait désormais noter une langue, devenant ainsi un terrain de possibilités gigantesques pour l'esprit humain. Pour pouvoir mieux comprendre ce que l'écriture symbolisait pour les habitants du pays de Sumer, il faut aller regarder comment eux-mêmes ont raconté l'invention de l'écriture. Le mythe, appelé Enmerkar et le seigneur d'Arata, part d'un problème assez simple. Enmerkar, le roi de la ville sumérienne d'Unug, veut embellir sa ville pour honorer la déesse qui la protège, Inanna. Or, le pays de Sumer ne dispose d'aucune ressource précieuse et le commerce n'existe pas encore. C'est dans le royaume d'Arata, une ville fastueuse et située par-delà les montagnes, que l'on trouve les plus grandes ressources de luxe, de l'or, de l'argent et des pierres précieuses à foison. Mais il y a un obstacle. Inanna est aussi la déesse protectrice d'Arata. Alors Enmerkar, pris de panique, adresse à sa déesse une prière pour la supplier de le préférer à son homologue d'Arata. Inanna lui offre une solution. Envoyer un messager qui exposera la préférence d'Inanna envers Enmerkar, au seigneur d'Arata, l'obligeant par la même occasion à transporter ses richesses vers la ville d'Unug. Le messager part confiant, arrive à la cour du palais et récite son message. Le messager revient bredouille, ou presque. Le seigneur d'Arata a refusé, mais il proposera successivement à Enmerkar trois défis, dont l'issue décidera de qui est le plus favorisé par Inanna. D'abord, Enmerkar doit envoyer à Arata du grain, mais pas dans des sacs fermés, non, ce serait trop facile, dans des filets. Eh oui. Enmerkar résout brillamment cette énigme en faisant germer quelques grains d'orge qu'il utilise pour combler les trous des filets. De cette manière, le grain avait été acheminé à Arata. Le deuxième défi imposé à Enmerkar est d'envoyer au seigneur d'Arata un sceptre fait d'aucun matériau existant. Cette fois, Enmerkar prit un roseau creux dans lequel il versa une sorte de colle de sa confection. Une fois la pâte durcie, le roi brisa le moule, le deuxième défi était tombé. Dans sa dernière épreuve, Enmerkar doit montrer au seigneur d'Arata un chien d'aucune couleur. Alors, le roi fila un vêtement, dans un fil d'aucune couleur, tout simplement, qui sera mis autour du chien. Il énonça le message à l'envoyé qui devait partir pour Arata, et à partir de là, le texte dit « La bouche du messager était trop lourde, et il ne pouvait pas répéter le message. Le seigneur d'Unug tapota alors de l'argile et y mit des mots comme sur une tablette. Avant ce jour, il n'était pas possible de mettre des mots sur de l'argile, mais maintenant, le soleil se leva en ce jour, et il était ainsi. » Pour comprendre quel rôle joue l'écriture dans le texte, je vais me livrer ici à quelques explications. L'adoration d'Inanna mène à un contact entre Enmerkar et le seigneur d'Arata, puisque Enmerkar a besoin de ses richesses pour embellir Unug et le temple d'Inanna. Un rapport de force découle de ce contact, puisque le seigneur d'Arata ne veut pas donner ses ressources, et c'est ce rapport-là qui est développé sur la quasi-totalité du mythe. La communication entre les rois se fait par messagers interposés qui mémorisent et restituent les paroles de chacun. Mais quand le messager n'est plus capable de mémoriser, il faut quelque chose de plus fiable. Et c'est là qu'intervient l'écriture. L'écriture est un pont qui permet même la communication entre le sumérien civilisé qu'est Enmerkar et le seigneur d'Arata, habitant par-delà les montagnes, montagnes qui sont pour les sumériens le repère des étrangers, voire même des barbares. C'est ce qu'Enmerkar demande à son messager de dire au seigneur d'Arata au moment où il doit établir le tout premier contact avec lui. Un jour, il n'y aura aucun serpent, aucun scorpion. Il n'y aura ni hyène, ni lion, il n'y aura pas non plus de chien sauvage ou de loup, et il n'y aura ni peur, ni tremblement, car l'homme n'aura alors plus d'ennemis. En ce jour, oui, le monde tout entier des peuples bien gouvernés sera capable de parler à Enlil, le roi des dieux, en une seule langue. que Enki, le seigneur de la sagesse et de la connaissance dans le pays, expert des dieux, qu'il change les langues dans leur bouche, autant qu'il en a placé ici. Et la parole de l'humanité sera vraiment une. Ce jour dont parle Enmerkar est, même s'il ne le sait pas encore, celui où lui-même inventera l'écriture. Car c'est bien aussi ce dont il est question dans le récit. L'inventivité avec laquelle Enmerkar résout les épreuves qui lui sont posées, et en prime, avec des éléments caractéristiques de la civilisation sumérienne, qui sont largement exportés à l'étranger. L'orge, pour le premier défi, est une denrée intensivement récoltée à Sumer, et dont la culture illustre parfaitement l'ingéniosité des Sumériens en matière d'irrigation. Le sceptre, du deuxième défi, fait référence à leur renommée pour la production d'objets manufacturés, et le tissu qui n'a pas de couleur montre la virtuosité des Sumériens dans la production textile. Enfin, la dernière invention du roi d'Unnug, celle qui vient parachever la démonstration du génie sumérien, c'est bien entendu l'écriture.
Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
L'écriture est donc pour les Sumériens un marqueur de leur génie et une passerelle entre les peuples. Mais, nouvelle question, comment écrit-on à Sumer 2000 ans avant l'ère chrétienne ? Heureusement pour nous, nous savons aujourd'hui très bien par quel procédé les Sumériens écrivaient, et je m'en vais vous le narrer. Si nous pensons aujourd'hui que les Sumériens devaient disposer d'un attirail très divers de supports pour écrire, comme le coquillage, le métal ou la pierre, nous savons qu'ils écrivaient surtout sur de l'argile, qu'on pouvait récolter à foison aux abords des fleuves Tigre et Euphrate. Les Sumériens en retiraient les cailloux, les morceaux de roseaux ou autres composés piégés dedans en la mixant avec de l'argile d'une autre provenance afin d'obtenir la matière la plus pure possible. Généralement, on l'aplatit dans une forme rectangulaire, de taille et d'épaisseur variable en fonction du texte que l'on veut inscrire dessus. Dans les temps les plus reculés de l'écriture, les gens du pays de Sumer pouvaient même utiliser le doigt. C'est le cas pour les boules d'argile qui servaient au commerce, sur lesquelles nous percevons parfois encore, non sans émotion, la trace appartenant à celui qui a tenu l'objet dans sa main, il y a près de 5000 ans. Mais l'objet le plus utilisé est ce que les Sumériens appellent Giduba, littéralement le roseau de tablette. Au cours du 4e millénaire, lorsque l'écriture était pictographique et ne pouvait guère noter que des relevés de comptabilité, ce bout de roseau pointu, que nous appelons aujourd'hui kalam, servait à inciser l'argile de signes figuratifs. Plus tard, le kalam est taillé en biseau, et il présente désormais des limites pour tracer des courbes linéaires sur de l'argile fraîche. Alors l'écriture s'adapte. La plongée du kalam dans l'argile est plus profonde, et sa pointe, maintenant triangulaire, donne à chacune de ses impressions la forme d'un clou. Désormais, au lieu de faire les signes tout en courbe, les Sumériens venaient de donner à leur écriture sa forme si caractéristique que 5000 ans plus tard, ceux qui la redécouvrirent qualifièrent de cunéiforme, en référence au latin cuneus, qui signifie le clou. Mais revenons à notre tablette qui, avec cette parenthèse, doit être devenue dure comme de la pierre. Eh oui, l'argile, lorsqu'on la laisse trop longtemps à l'air, s'assèche et durcit. Pour contourner cette contrainte, les scribes pouvaient être amenés à recouvrir la tablette en cours d'écriture avec un linge humide, de manière à pouvoir s'absenter sans que le fruit de leur travail ne soit perdu. La nécessité de garder l'argile humide pouvait aussi devenir un avantage lorsque le scribe commettait une erreur. Il lui suffisait alors d'humidifier son doigt et de gommer à l'endroit de la faute pour réécrire par-dessus. Enfin, une fois la tablette terminée, on pouvait la faire cuire au soleil ou dans un four avec une cuisson adaptée afin de figer son contenu pour les millénaires à venir. Et c'était à ce moment précis que le travail de purification de l'argile prenait toute son importance. Une tablette qui contient encore des impuretés piégées dans son argile les voyait littéralement exploser lors de sa cuisson au four à cause de la pression de l'air, ce qui avait pour conséquence la destruction pure et simple de l'objet. Mais on n'était pas obligé de cuire toutes les tablettes. Certaines, dont l'inscription ne servait qu'à court ou moyen terme, étaient effacées et réécrites avec d'autres textes, voire remodelées pour toute autre chose. Et c'est probablement en cela que l'argile était le support parfait pour l'écriture. Incroyablement flexible et malléable, elle permettait aux Sumériens de moduler sa forme selon leur volonté. L'argile tolère l'erreur, autorise la réécriture, encourage l'ajout et le retrait, favorise l'errance de la composition et les trébuchements de l'esprit. Elle transforme les tribulations du kalam en un acte de création, physique et intellectuel. Bref, l'argile est une ode à la liberté et à la création. Nous avons répondu à la question de comment on écrit à Sumer, mais il reste un autre mystère à éclaircir. Qui ? qui pouvaient lire et écrire il y a 5000 ans. Les principaux détenteurs de l'écriture en Mésopotamie n'étaient pas humains, car c'est avec la métaphore de l'écriture que les Mésopotamiens désignaient l'action divine. Pour eux, chaque chose était l'œuvre des dieux. Comme le scribe imprimant son calame dans l'argile, les dieux inscrivaient dans le monde des messages, dont la teneur n'attendait que d'être déchiffrée par les hommes. Ce déchiffrement, c'était ce que l'on appelle aujourd'hui la divination, c'est-à-dire l'interprétation à travers des méthodes diverses et variées de n'importe quel événement qui survient dans le monde. Mais si les dieux sont les écrivains du monde, qu'en est-il des hommes, alors ? Bon, là on est un petit peu devant la question à un million. D'abord, ce qui est certain, c'est qu'il existait chez les Sumériens un professionnel consacré à l'écriture. Plusieurs mots sont utilisés à travers les siècles, mais le terme qui l'est le plus, et de loin, pour la profession de scribe, apparaît vers 2700. Il se dit doubsar, doub signifiant toujours la tablette, sar étant le verbe pour aller vite et droit. Le scribe est donc littéralement...
celui qui va vite et droit sur la tablette.
C'est... oui, Francis ! C'est gagné, Francis ! Victoire de Francis ! Alors là, on s'embrasse tout de suite. 22-20.
Pour les Sumériens, donc, le scribe se caractérise d'abord par une certaine expertise et une rapidité d'exécution. Si l'on sait qu'un métier était consacré à l'écriture, est-il possible que ce savoir était partagé à d'autres franges de la société ? Pendant très longtemps, jusqu'à la fin des années 90, début 2000, après Jésus-Christ je précise, les chercheurs étaient convaincus que l'écriture à Sumer, comme ailleurs en Mésopotamie, était un art exclusivement réservé à une élite intellectuelle, celle des scribes. Le discours d'aujourd'hui n'est plus tellement catégorique. Si certains continuent de tenir mordicus à l'idée d'une écriture jalousement gardée par le milieu savant, d'autres pensent au contraire qu'elle était beaucoup plus répandue qu'on le croyait jusqu'à présent. Des indices datant de la fin du 3e millénaire laisseraient entendre que l'écriture était pratiquée par des non-professionnels. Déjà, à Ur, plus de la moitié des habitations qui ont été fouillées abritaient des textes. Il est vrai cependant que ces maisons étaient celles des élites, et qu'avoir un document chez soi ne signifie pas qu'on sait lire, et encore moins qu'on l'a écrit, mais cela reste une donnée intéressante. Dans certaines lettres, ensuite, on a deux formules différentes qui alternent. En voyant ma présente tablette, et en écoutant ma présente tablette. Vous en conviendrez, voir n'est pas la même chose qu'entendre. Et il nous est largement connu qu'en Mésopotamie, ceux qui avaient besoin d'accéder au contenu d'un document et qui ne savaient pas lire, se le faisaient lire par quelqu'un. Or, si on dit avoir vu une tablette, cela sous-entend probablement qu'on l'a lu. Une autre piste repose sur une histoire d'orthographe. Comme le français aujourd'hui, les Sumériens étaient écrits par les scribes avec une orthographe quasiment canonique. Or, certains documents présentent des bizarreries d'écriture qui, sans être des fautes à proprement parler, diffèrent de l'écriture habituelle. Et l'on pourrait très bien attribuer ces bizarreries à des gens qui savent écrire, mais pas dans les règles de l'art comme le font les scribes. Il est même possible que certains rois sumériens se soient entichés d'apprendre l'art du scribe, et au moins l'un d'entre eux, le roi Shulgi de la ville d'Ur, vers 2080, s'en est vanté dans des hymnes à lui-même, sur lesquels nous reviendrons. Tous ces indices pointeraient donc vers l'idée que les scribes n'étaient pas les seuls à savoir écrire, et que cette pratique s'étendrait au moins aux gens de l'élite sociale, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs. Aussi, on peut très bien lire sans savoir écrire, et il semblerait que ce soit le niveau d'alphabétisation le plus fréquent dans le pays de Sumer, à la fin du 3e millénaire.
Vous écoutez bien les Antiquités Orientales, un jeudi par mois à 18h, sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Bon, pour résumer, on sait qui peut écrire, on sait comment on écrit, mais on ne sait pas encore comment on apprend à écrire. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Ce que l'on constate, c'est que dès les tout débuts de l'écriture, vers 3000, les Sumériens ont travaillé à la meilleure manière de transmettre cet outil aux générations futures. De cette période, nous avons retrouvé des tablettes qui se présentent sous la forme de listes, regroupant les mots par thème, comme le bois et ses objets dérivés, le métal, les poissons, les oiseaux, etc. Ces listes devaient contenir tout le vocabulaire nécessaire à l'écriture de textes administratifs, à une époque où l'écriture, on l'a dit, n'est utilisée que dans ce contexte-là. Mais il était impossible de comprendre ces listes sans les commentaires d'un maître, qui devait expliquer à un ou plusieurs élèves le sens de chaque mot. Cette manière d'enseigner l'écriture cunéiforme va largement dépasser la civilisation sumérienne, puisque toutes les civilisations qui vont l'apprendre pour les 3 millénaires à venir utiliseront des listes lexicales de ce type. Avançons maintenant dans le temps. Vers 2600 ou 2500, certaines listes lexicales que l'on a retrouvées et qui se comptent sur les doigts d'une main portent de petits ajouts assez exceptionnels, des dessins. Ces représentations d'hommes, de serpents ou encore de figures géométriques plus abstraites semblent être des représentations cosmologiques du monde. Autrement dit, ils portent en eux-mêmes toute une mythologie à laquelle nous avons très peu accès, mais qui, pour eux, était évidente. En réalité, les listes lexicales ne sont pas qu'une façon d'apprendre l'écriture. Elles sont aussi une manière de s'approprier le monde, en le classant d'abord, et comme le montrent ses dessins ensuite, de poser sur le monde un récit mythologique, sur son organisation, sa hiérarchie, ses dieux, etc. Par cet exemple, les Sumériens nous montrent quelque chose d'universel. L'écriture est un moyen pour l'homme qui ne peut pas comprendre le monde dans sa totalité, de l'enfermer, en quelque sorte, pour mieux le maîtriser et évoluer dedans. Ce n'est que pendant la période de la troisième dynastie d'Ur, vers 2000, que nous voyons apparaître une institution dédiée à l'apprentissage, une école, comme on l'appellerait aujourd'hui. La toute première école des scribes jamais documentée est baptisée en sumérien Eduba, et pour maison, Duba pour de la tablette. Rappelez-vous du roi Shulgi qui se fait faire des hymnes à lui-même. Eh bien, dans ces hymnes, il se vante d'avoir appris l'art du scribe à l'Eduba. Bien que pure propagande, ces hymnes donnent malgré tout quelques petits renseignements sur ce que l'on apprend à l'école sumérienne. Dans l'un d'eux, Shulgi dit, je cite, « Lorsque j'étais petit, j'étais à l'Eduba, où j'ai appris l'art du scribe. Aucun des nobles ne pouvait écrire sur l'argile comme je le faisais. Je me suis qualifié en soustraction, en addition, en calcul et en comptabilité. Je suis un scribe expérimenté, qui ne néglige rien. » Et dans un autre hymne, il poursuit dans un ultime élan de mégalomanie tel un Jean-Luc Mélenchon au sommet de son art, je cite, « Le sage scribe de la déesse Nisaba, c'est moi !» Tout ça pour dire que c'est ce roi qui est à l'origine d'une réforme ayant pour conséquence une nette augmentation du nombre d'écoles et par extension du nombre de gens qui apprennent à écrire. Il met en place un système d'éducation fondé sur l'étude des sciences, comme on l'a vu dans l'extrait, intégrant aussi l'apprentissage de la musique, dont il se vante d'avoir tout appris dans un autre hymne. Ainsi, la maison de la tablette forme à l'écriture, c'est certain, mais elle ne donne pas le même enseignement à tout le monde. En effet, on compte en son sein un panel de profils variés, qui n'ont pas tous besoin d'une maîtrise de l'écriture très approfondie dans leur travail. Certains élèves ne seront voués qu'à faire de la comptabilité, quand d'autres sont au contraire destinés à servir la cour, requérant une formation intellectuelle et une maîtrise de l'écriture plus poussée. Certains ne deviendront même pas des scribes, mais plutôt des administrateurs, qui ont juste besoin de savoir envoyer et lire des lettres pour communiquer avec leur hiérarchie. Enfin, les membres du personnel religieux apprennent aussi à écrire, que ce soit pour noter des rituels ou chanter des louanges aux dieux, à partir de textes écrits. Les élèves débutants commençaient par recopier des signes, puis des phrases, quand les plus avancés écrivaient sous la dictée de leur maître de véritables passages de textes littéraires, spécialement composés pour l'apprentissage de l'écriture cunéiforme, dont, évidemment, les hymnes propagandistes de Shulgi font partie durant son règne. Ainsi, on touche là à un autre aspect du rapport qu'entretiennent les Sumériens avec l'écriture. Instrument de pouvoir, elle permet d'imprimer des idées. Dans l'esprit de celui qui l'enseigne d'abord, l'écriture intègre le discours qu'elle porte, autant que dans l'esprit de celui qui l'apprend ensuite, avec toute la minutie machinale que nécessite son apprentissage. Enfin, digne de nos plus beaux plans marketing d'aujourd'hui, l'écriture imprime les idées qu'elle véhicule dans l'esprit de celui qui la lit. En clair, elle est une arme redoutable pour diffuser, voire imposer des idées, et cela, Shulgi l'avait très bien compris. Née dans le berceau de la civilisation, l'écriture a redéfini le rapport qu'avaient les Sumériens au monde. Plus qu'un moyen de communication entre les peuples, elle a permis l'essor des premiers états, en leur donnant la capacité d'optimiser leurs ressources, que ce soit dans le cadre du culte aux dieux, des échanges commerciaux ou de l'usage quotidien. L'écriture offrit aux Sumériens de s'approprier le monde, en le classant dans des listes de mots. Elle constituait aussi pour eux le témoignage de leur génie, une arme qui donne à celui qui la maîtrise un pouvoir, celui de la création d'abord, mais aussi celui de contrôler la perception de celui qui la lit ensuite, que ce soit sur des événements, des personnages ou des faits. L'écriture fait revivre les morts. Elle les fait parler, crier, parfois même pleurer, si bien que même 5000 ans après leur déclin, les Sumériens continuent de résonner dans le temps. C'est ainsi que s'achève ce troisième épisode des Antiquités orientales sur la civilisation sumérienne. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à l'équipe de Radio Campus Paris qui produit cette émission. N'hésitez pas à suivre aussi cette aventure sur Instagram, @les-antiquités-orientales, et sur Facebook, en tapant Les Antiquités Orientales dans la barre de recherche. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et comme on dit en sumérien, Silimma Doug.